De minuit à 7 heures, quatrième partie. Chapitre 1. L'inspecteur Nanta. Ce Baratov, disait M. Lisnet, juge d'instruction, à son secrétaire. À l'instant où ils arrivaient tous deux au nouveau palace, peu après 8 heures du matin. Ce Baratov, d'après les renseignements que viennent de me fournir les dossiers de la préfecture et de la Sûreté générale, était un personnage assez louche. Très riche, comment l'était-il devenu? Voyageant sans cesse, pour des raisons mal définies, de pays en pays, surveillé en Pologne et en Autriche par la police, son existence présente des côtés bizarres qui peuvent expliquer l'assassinat. Ce don de 5 millions au laboratoire, qui a attiré l'attention du public, devait avoir pour lui un intérêt caché. L'assassin est sans doute un ancien complice. Ou peut-être une victime qui se sera vengée, remarqua le secrétaire. Il s'interrompit. Tous deux entraient dans l'appartement de Baratov. Le commissaire de police du quartier n'y était plus. À sa place, et entouré de 3 ou 4 agents en civil, un homme de haute taille, solidement bâti, avec, sous une calotte d'épais cheveux roux coupés courts, une large face au perpétuel sourire, allait et venait, observant toute chose du regard aigu des petits yeux étonnamment mobiles. C'était l'inspecteur principal Nanta, une des illustrations de la police judiciaire. Ses ennemis, ses envieux, lui reprochaient de trop aimer les apéritifs. Ses amis, ses admirateurs, soutenaient que cette imputation était calomnieuse et que, si Nanta paraissait parfois éméché, c'était, comme ses affectations de bonhomie et de laisser-aller, une comédie qu'il jouait pour endormir la défiance et paraître inoffensif. Ses chefs, eux, qu'il s'enivra ou non, vantaient son incomparable sagacité, son expérience consommée et la sûreté de son diagnostic presque infaillible. « Eh bien, Nanta ?» demanda M. Lisnet, qui le connaissait de longue date. « Eh ben, monsieur le juge d'instruction, voilà, » dit Nanta, qui avait coutume de traîner la voix et de répéter ses mots. « Eh ben, voilà, regardez-moi ces valises, ça a été ouvert. Tenez, celle-là. « Voyez-moi la serrure, ça a été forcé. Il y a eu vol, c'est sûr et certain. Oh, certes, on n'a pas touché les vêtements. Mais ce Baratov, d'après mes petits renseignements, avait toujours des bijoux, des objets de valeur, des choses de Russie, n'est-ce pas? Et on s'est cassé le poignet dessus. Il n'y a plus rien. Du reste, si vous voulez venir voir le corps... « Je ne me suis pas permis de le fouiller avant vous. »« Allons, » dit M. Lisnet. Ils gagnèrent la chambre à coucher où le corps de Baratov reposait sur le lit. Nanta se pencha sur lui. « Tiens, 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 le gilet a été déboutonné, et bien brutalement, il y a un des boutons qui a sauté. »« Voyons, pas de poche intérieure au gilet ?»« mais si !» Eh, bien intéressante, la poche de droite, bien intéressante. La patte est déchirée. Et, monsieur le juge, voyez-moi comme la poche est distendue, comme ses bords sont décousus. Cette poche-là a contenu quelque chose de trop gros, de trop large, qui l'écartelait et la déformait, et qu'on a arraché violemment. Qu'est-ce que ça pouvait être? Des billets de banque? Oui, peut-être. Mais pas probable, pas probable. Voyons maintenant le portefeuille. Il fouilla le smoking, en tira un élégant portefeuille qu'il passa à M. Lisnet. Celui-ci en inventoria le contenu. « Pas d'argent, » dit-il. « Des papiers, mais pas d'argent. Il y a eu vol. »« C'est sûr, monsieur le juge. Il était en smoking et allait sortir. » « On ne sort pas sans beaucoup d'argent quand on est Baratov. »« Le carnet de chèques est intact. »« Évidemment, comment s'en servir ? et c'est compromettant. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans la poche du gilet? Des billets de banque? Pas probable. Pourquoi entasser des billets de banque dans la poche de son gilet quand on a un carnet de chèques et qu'on vient de Londres où on a pu changer tout ce qu'on a voulu? Monsieur Lissonnet examinait les papiers de Baratov. Nanta se dirigea vers la table où se trouvait toujours le carnet d'adresse que, dans la nuit, Madame d'Estol avait eu, seule, l'initiative de consulter. « Tiens, 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 » dit l'inspecteur principal. « Ça, c'est peut-être du bon. » Il prit le carnet, en tourna les pages l'une après l'autre. « Tiens, 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 » redit-il tout à coup. « Monsieur le juge, regardez-moi cette page-là. Hein? C'est la liste des papiers qu'il a apportés. Et regardez-moi la mention qui est là, soulignée à l'encre rouge, pochette. Où est-elle, cette pochette? J'en sais rien, mais je sais où elle était. Elle était dans le gilet. Et elle devait contenir quelque chose de précieux pour que Baratov la garde toujours sur lui. Et c'est pour la lui voler qu'on l'a assassinée. « Vous permettez, monsieur le juge, que je regarde encore un peu ce carnet ?»« Je ne sais vraiment pas pourquoi on n'a pas pensé à le regarder plus tôt. C'est un truc plein de renseignements. » Sous l'œil amusé de monsieur Lissonnet, l'inspecteur principal Nanta continua à feuilleter attentivement le carnet. « Tiens, tiens, tiens » répéta-t-il. « Je crois que voilà une petite indication sur l'ami du dîner, le jeune homme brun, le sieur Gérard. Ça le concerne, ça, le sieur Gérard. » De Londres, télégraphié à Gérard, confirmation de mon arrivée pour le 8 mai. Pension russe à Auteuil. « Nous y sommes, je la connais, cette pension russe. C'est une drôle de boîte. » « Nanta, vous êtes précieux. Allez y voir sans retard, » dit le juge. « Et je cueille le sieur Gérard et je vous l'amène en douce, monsieur le juge. À moins qu'il ne soit déjà envolé. Viens avec moi, Victor. » Il s'adressait à un de ses sous-ordres, un homme trapu d'une quarantaine d'années. Tous deux sortirent. À la même heure, à la pension russe, Gérard achevait sa toilette. Avant de mettre son veston, il alluma une cigarette et, prenant le vêtement qu'il portait pendant la nuit, d'une poche intérieure, il retira une pochette gonflée de papier. S'asseyant, en bras de chemise, devant sa table, il enveloppa cette pochette dans un papier fort qu'il ficela, puis cacheta au nœud de la ficelle, avec de la cire rouge prise dans la valise et qu'une allumette bougie lui permit de faire fondre. Ensuite, il inscrivit une adresse sur un papier qu'il glissa dans une enveloppe. Cela fait, il sonna le garçon. « Demande au patron de venir me voir, » lui dit-il. 2 minutes après, le patron paraissait. « Bonjour, Yegor, » lui dit Gérard. « Ça va bien ? Et toi, l'histoire de cette nuit ?»
Quelle histoire! Ah, les ivrognes! Pfft!
Tu sais qu'on est venu se renseigner sur la dame qui était avec toi?
Oui, c'est une dame pas mal plus âgée qui est venue, et un jeune homme. Il voulait monter ici.
Et alors?
J'ai dit que tu étais parti avec elle.
Parfait! Maintenant, Yegor, attention. Je te confie ce paquet. Il est d'une grande importance pour moi. Tu vas l'enfermer dans ton coffre-fort sans que personne le sache. Tu entends? Tu n'en parleras à personne au monde, pas même à ta femme. Tu me le jures?
Je te le jure, dit gravement le Russe.
Et tu ne le remettras à personne qu'à moi, ou à quelqu'un qui t'apportera ma carte avec ma signature. Ma carte au nom de Gérard est signée Gérard. Dans 8 jours, si tu ne reçois de moi aucun contre-ordre, tu le porteras à l'adresse qui se trouve dans cette enveloppe. C'est bien compris?
Tu peux compter sur moi.
Merci, mon vieux. Le patron mit le paquet dans sa poche et redescendit.
Dans la cour, il trouva sa femme, une Française, qui parlementait avec deux inconnus. « Ces messieurs demandent Monsieur Gérard, » dit-elle.
« Eh bien, mais il faut le faire prévenir. »
« Pas la peine, » dit l'un des visiteurs d'une voix traînante. « Dites-nous où est sa chambre. Nous allons monter. Nous sommes des amis et il nous attend. »
Le patron eut une hésitation, mais il ne pouvait refuser l'indication à ses visiteurs, en qui il pressentait vaguement des policiers. Il les renseigna, et pendant qu'il s'engageait dans l'escalier de la cour, il regagna vite son bureau, et, loin de tous les yeux, enferma dans son coffre-fort le paquet de Gérard. Gérard mettait son veston quand on frappa à sa porte. Qui était-ce? Les sujets d'inquiétude ne lui manquaient pas, et il éprouva une impression de satisfaction en se disant que les papiers étaient en sûreté. Il alla ouvrir, deux inconnus stationnés sur le palier. « Monsieur Gérard ?» demanda l'un d'eux, grand et roux. « C'est moi, que désirez-vous ? »
« Ben voilà, vous connaissez bien un certain monsieur Baratov. »
« Oui, pourquoi demandez-vous cela ?»«
Pour savoir. Je suis l'inspecteur principal Nanta, de la police judiciaire. Monsieur Baratov a été trouvé assassiné cette nuit. »
Gérard sursauta.
« Assassiné ? Baratov assassiné ? » ?»«
Ben oui, assassiné. »
« C'est effroyable ! Assassiné ? Un homme vigoureux, courageux comme lui ?»
Gérard soudain s'interrompit. Il était très pâle. Le visage contracté, le regard fixé à terre, il garda un moment le silence. De ses yeux fouilleurs, Nanta l'observait.
« Où a-t-il été assassiné ?» demanda Gérard d'une voix sourde.
« On connaît l'assassin ?»«
On le connaîtra. Le cadavre a été trouvé au nouveau palace. Nous aurions besoin de petits renseignements sur M. Baratov. Oui, de petits renseignements. Alors, comme nous savons que vous étiez un de ses amis, un de ses bons amis, on vous prie de venir là-bas. »
Comment la police avait-elle appris qu'il connaissait Baratov ? Gérard ne se le demanda même pas.
« Il faut que j'aille là-bas avec vous ? » dit-il.
« Oui, vous comprenez, on a besoin de petits renseignements. Alors vous pouvez nous aider. »
« Je viens tout de suite, » dit Gérard. « Le malheureux ! Assassiné ! Allons, partons, » dit Nanta.
L'inspecteur Victor, qui avait reçu des instructions particulières de Nanta, descendit avec eux, mais dans la cour, il les quitta. Il restait à la pension russe, où il était chargé de recueillir quelques indications. Nanta, dans le taxi qui l'avait amené, fit monter Gérard et s'assit à son côté. Pendant tout le trajet, sans parler du crime lui-même, il posa à Gérard 1000 questions, souvent saugrenues, sur Baratov. Gérard répondait prudemment, attentif à ne rien dire de compromettant. Il eût voulu réfléchir. Ses questions incessantes l'en empêchaient. C'était probablement le but de Nanta. Chapitre 2. L'interrogatoire. Au nouveau palace, le cadavre de Baratov avait été enlevé pour l'autopsie à l'Institut médico-légal quand Gérard arriva avec Nanta. Celui-ci donna à voix basse quelques ordres à deux de ses agents. Puis, dans le salon de Baratov, il prit à part un moment le juge d'instruction. Après quoi, il s'installa dans un coin.
« Veuillez vous asseoir, monsieur, » dit à Gérard M. Lissenet avec la plus grande politesse. « Vous étiez un ami de M. Baratov, n'est-ce pas ?»«
Un ami, non. Nous avons eu des relations d'affaires. »«
Il avait beaucoup d'affaires en Pologne. »«
En Pologne, d'où vous venez, n'est-ce pas ?»«
Oui. »«
Vous appelez-vous réellement M. Gérard ?» Est-ce seulement un prénom ou votre nom de famille ?
Gérard eut une imperceptible hésitation. C'est mon nom de famille.
Vous êtes venu ici plusieurs fois hier, demandait Monsieur Baratov. Vous n'aviez pas voyagé avec lui?
Non, mais j'ai dîné ici même, dans ce salon, avec lui, hier soir.
J'allais vous le dire. Vous avez quitté à quelle heure, Monsieur Baratov?
Vers 9 heures, un peu avant peut-être.
Et vous êtes revenu à 11 heures?
Oui, nous n'avions pas achevé notre conversation. J'avais dû entre-temps faire une course.
Et Monsieur Baratov ne vous a fait part d'aucune inquiétude?
Il allait sortir puisqu'il était en smoking, alors qu'au dîner il était en veston. Vous a-t-il dit où il comptait aller?
Non.
Et vous vous êtes quitté en bons termes?
Mais oui.
Ce n'est pas ce qui ressort de certains témoignages. Au dîner, vous étiez en bons termes, mais non lors de votre seconde visite. Le garçon d'étage, en effet, déclare, des positions confirmées par celles du valet de chambre, que vers 11h15, il a entendu pendant quelques instants, venant de l'appartement de M. Baratov, les éclats d'une violente discussion. Le juge d'instruction regardait Gérard, qui eut un mouvement d'épaule et répondit
« C'est exact, nous avons eu une querelle.
Je n'en parlais pas parce que cette querelle avait pour motif une question toute personnelle. »«
Quelle question personnelle ?»
Gérard se redressa.
« Mais monsieur, c'est un véritable interrogatoire que vous me faites subir. »
« Ce n'est pas un interrogatoire que je vous fais subir, » dit M. Lisney. « Je n'ai le droit de vous interroger que devant un avocat. J'ai besoin simplement, pour éclairer la justice, de certains renseignements. Je vous pose les questions que je crois utiles. Vous êtes libre d'y répondre ou non.
Je répète ma dernière question.
Pourquoi cette querelle ?»
Je vous ai dit, monsieur, que c'était une affaire toute personnelle, ne concernant que lui et moi.
Et il n'y a pas d'affaire personnelle aux yeux de la justice.
Je ne puis répondre.
C'est votre droit. Donc, à 11h30, vous avez quitté Baratov.
Oui, dit Gérard.
Et quand vous avez quitté Baratov, continua le juge d'instruction, votre querelle était-elle terminée? Le bon accord était-il rétabli entre vous?
Non, répondit Gérard un peu embarrassé. La cause de notre dissentiment était grave.
Donc vous vous êtes séparés en pleine fâcherie?
Oui.
Après une lutte?
On a entendu...
Oui, après une lutte, avoua Gérard.
Et où avez-vous été ensuite?
À mon hôtel, à la pension russe, dit Gérard après une hésitation.
« Et vous y êtes arrivé vers quelle heure ?»«
Je ne sais trop. Vers minuit, peut-être minuit et quart. J'y suis allé à pied, sans me presser, pour me calmer. »
Le juge se tourna vers Nanta.
« Vous avez obtenu des précisions à ce sujet, monsieur l'inspecteur principal ?»
Nanta se leva et prit l'appareil du téléphone.
« Voulez-vous me permettre, monsieur le juge d'instruction ?»« Allô, demandez-moi la pension russe, à Auteuil. »
Il attendit un moment.
« La pension russe? Monsieur le directeur? Allô, est-ce que l'inspecteur Victor peut venir à l'appareil ?»
Nouvelle attente.
« C'est toi, Victor? À quelle heure le sieur Gérard est-il arrivé hier soir ?»
Il écouta la réponse de Victor qui dura 1 ou 2 minutes, puis il raccrocha et déclara, de sa voix la plus traînante,
« Le sieur Gérard n'est arrivé à la pension où il y avait un machin, enfin quoi, un bal, un bastringue, que vers 2 heures, et il avait une poule avec lui, une poule en blanc et rouge, même qu'ils étaient ensemble comme 2 tourtereaux. C'en était émouvant.
Qui était cette personne en blanc et rouge qui vous accompagnait?
Demanda le juge d'instruction.
Je ne peux pas le dire, répondit Gérard avec une décision qu'on sentait immuable.
Toujours la dame à ne pas compromettre, ricana Nanta. C'est beau, la galanterie française.
Et de 11h30, heure où vous êtes parti d'ici, à près de 2 heures où l'on vous a vu à ce bal de la pension russe, qu'avez-vous fait ?
Demanda M. Lisney.
Je ne peux pas le dire,
déclara Gérard avec la même fermeté. Le juge d'instruction prit un temps.
« Donc, prononça-t-il lentement, aucune réponse précise. De mon côté, je dois appeler votre attention sur ce fait. Vous êtes la dernière personne qui ait vu Baratov vivant. Le garçon de l'étage est à peu près catégorique. De garde à l'office, il apercevait la porte de l'appartement. Personne n'est entré après que vous en êtes sorti. Il est sans Baratov avec qui vous veniez d'avoir une querelle violente. »
Gérard ne répondit pas tout de suite.
« Si je vous comprends bien, monsieur le juge d'instruction, dit-il enfin d'une voix calme, dans votre idée, j'aurais, avant mon départ, tué Baratov. »
« Je n'ai aucune idée,
répliqua, parfaitement calme aussi, monsieur Lisney. Je cherche la vérité. Et je constate qu'il y a eu discussion violente et bataille entre vous et Baratov avant votre départ. Je constate qu'après votre départ, personne n'est entré chez Baratov et quelques heures plus tard, Baratov a été trouvé assassiné. Je constate, en outre, que vous vous refusez à donner l'emploi de votre temps pendant les 2 heures et quart qui ont suivi votre départ d'ici. Il fallait un quart d'heure pour gagner la pension russe. « Reste 2 heures. Vous persistez à refuser de dire ce que vous avez fait pendant ces 2 heures ?»«
Je persiste à refuser. »
Il y eut un silence. Nanta se leva. Il s'approcha de Gérard, lui mit la main sur l'épaule et se penchant pour le regarder de près dans les yeux. « Voyons, et la pochette que t'as prise dans le gilet ?» Et les billets que t'as pris dans le portefeuille, et les bijoux que t'as pris dans les valises. Tu veux pas dire où tu les as planqués? Pas si bête, hein, que de les porter dans ta chambre. T'as été les mettre en lieu sûr. C'est ça l'emploi du temps pendant les fameuses 2 heures. C'est ça, hein?
À ces questions posées d'une voix canaille, à ce tutoiement qui le souffletait, le ravalant au rang des malfaiteurs professionnels, à cette main appesantie sur lui comme l'étreinte impitoyable de la loi, à cette accusation d'avoir tué pour voler, Gérard frémit. Se dégageant, il planta dans les yeux du policier un regard qui déconcerta Nanta, et il dit au juge d'une voix forte « Monsieur le juge d'instruction, « je vous prie d'interdire à cet homme de me toucher et de me tutoyer. »
Nanta se redressa. « Oh, vous savez, fit-il, ce que j'en disais, c'était pour vous. Ça procure l'indulgence du jury, les aveux. »
Il rit et reprit.
« Les aveux spontanés. »
L'interrogatoire durait depuis longtemps. M. Lisney, qui était un peu las et souhaitait déjeuner, se leva.
« Je reviendrai à 2h30 afin de poursuivre l'enquête, dit-il. Je vous poserai de nouvelles questions, ajouta-t-il, s'adressant à Gérard. J'espère que vous aurez réfléchi. »
Gérard se tut.
« Et nous autres, on va déjeuner ensemble, en bonne amitié,
lui dit aimablement Nanta.
Allant vers la porte, il appela « Victor ».
L'inspecteur était revenu de la pension russe. Il parut.
« Fais monter ici à déjeuner pour 3 », lui dit Nanta.
« Oui, pour monsieur, pour toi et pour moi.
Oublie pas l'apéritif. »
Ce que fut ce déjeuner, Gérard ne devait jamais l'oublier. Jamais, dans les pires aventures, dans les situations les plus périlleuses, il n'avait éprouvé cette sensation, affreuse et avilissante, d'une lutte telle que celle qu'il eut à soutenir contre le policier familier, goguenard, redoutable, qui, pour le faire parler, épuisa toutes les ruses, toutes les menaces, ouvertes ou cachées, toutes les promesses fallacieuses que lui suggérait une expérience consommée. L'inspecteur Victor mangeait. Nanta, après avoir bu son apéritif et avalé quelques bouchées hâtives, se retourna vers Gérard, qui n'avait voulu toucher à rien.
« Alors quoi, pas d'appétit ?»
lui demanda-t-il.
« Le remords, quoi ?»
Gérard haussa les épaules.
« Alors, puisque vous ne mangez pas, causons !»
reprit Nanta d'un ton bonhomme.
« Mais oui, vous m'êtes sympathique, et j'aime mieux vous prévenir que vous faites fausse route. À quoi ça vous sert de nier ce qu'on découvrira un jour ou l'autre ?»
Il s'interrompit, se versa un verre de vin, le dégusta et prononça à mi-voix.
« Pas mauvais du tout !»
Et il reprit.
« Alors, je vous disais que ça ne sert à rien de nier ce qui sera découvert. Premier point, vous ne vous appelez pas Gérard. On saura comment vous vous appelez, c'est couru, même si vous n'avez pas une fiche à l'anthropométrie. Ça vous blesse ?»
Gérard n'avait pu réprimer un mouvement.
« Bon, j'admets que vous n'en avez pas. »«
Pas encore.
On saura votre nom tout de même. Il y a bien des gens qui vous connaissent et qui parleront. Des amis, de la famille. Mais ça, c'est secondaire. Ce que je voudrais, c'est que vous me disiez pourquoi vous avez tué Baratov. »
Gérard garda le silence. Nanta répéta.
« Je vous demande pourquoi vous avez tué Baratov ?»«
Je ne l'ai pas tué, » dit sèchement Gérard.
« Et pendant que vous vous égarez sur moi, le vrai assassin peut s'enfuir. »«
Remarquez, » continua Nanta comme s'il n'avait pas entendu,
« je ne vous dis pas que vous êtes sans excuse. On peut tuer dans une querelle sans préméditation, surtout si la querelle a pour motif une femme. » « Celle en blanc et rouge.
C'est ça, hein »
termina-t-il au hasard, obéissant à l'adage policier « chercher la femme ».
Gérard haussa les épaules.
« Vous avez tort de blaguer, » dit Nanta. « On est gentil pour vous. »
« Oui, faudrait pas qu'il se paie notre tête, »
intervint l'inspecteur Victor. « On pourrait lui couper ses ergots. »
Il s'était levé.
Gérard mesura Victor du regard.
« Vous ne pensez pas me faire peur ?» dit-il avec calme.
« Tiens-toi tranquille, » ordonna Nanta à Victor.
« Alors, voyons, monsieur. Gérard, comprenez bien que vous ne vous en tirerez pas. Et écoutez pour la dernière fois un bon conseil. Faites la part du feu. C'est bête de tout nier. » « Dites pourquoi vous avez tué Baratov ?»«
Par vengeance, hein ?»« Et vous l'avez dépouillé pour faire croire à un crime d'intérêt. »«
C'est ça, hein ?»«
Alors, dites où vous avez caché les papiers, les billets et les bijoux. »« On vous en tiendra compte. »
Nanta avait changé de ton. Il n'était plus goguenard. Ses paroles avaient l'apparence de la vérité.
Et n'était-elle pas la vérité ?
Mais la décision de Gérard était immuable. Inutile d'insister davantage. Vous êtes très habile, mais cette habileté ne peut être efficace qu'envers un coupable.
Nanta connaissait les hommes. Il comprit que ni par force ni par ruse on ne ferait parler celui-là.
« Comme vous voudrez, » dit-il seulement d'un ton qui signifiait « à nous deux ». Il sonna pour faire desservir la table. Un long moment s'écoula. Le juge d'instruction reparut.
« Eh bien » demanda-t-il du regard autant que de la voix à Nanta.
Nanta eut un geste signifiant « il n'a rien dit ».
« Alors, définitivement, vous ne voulez pas parler, » dit Monsieur Lisney à Gérard. « Vous vous refusez à donner l'emploi de votre temps de minuit à 2 heures. »
« Je refuse, en effet, » dit fermement Gérard. « Parlerez-vous en présence de votre avocat ?»«
Pas davantage, monsieur le juge d'instruction. »«
Bien, vous mesurez les conséquences de vos actes. »«
Oui. »«
Il ne me reste donc qu'à signer contre vous un mandat d'arrêt. »
Gérard resta impassible. Après un instant de silence, le juge, que cette obstination irritait, se pencha sur sa table et signa. À ce moment, on frappa. L'agent qui entra remit au juge un papier plié. Monsieur Lisney le déplia, y jeta les yeux et eut un mouvement de surprise.
« Cette personne est là et voudrait parler à monsieur le juge, » dit l'agent.
« Devons-nous nous retirer ?» demanda Nanta à monsieur Lisney.
« Non, restez, vous, Nanta. »«
Victor doit emmener cet homme ?» dit Nanta en désignant Gérard. Gérard était inquiet. Que se passait-il ? Quelle était cette personne ? Il avait presque peur.
Le juge répondit tout en regardant Gérard. « Non, qu'il reste. »
Et il dit à l'agent, « Faites entrer. » L'agent et Victor sortirent, puis la porte fut rouverte. Gérard sursauta avec un grand cri et les bras tendus comme pour barrer le passage à la personne qui entrait. C'était Nelly Rose. Chapitre 3. Confrontation. Après être retournée chez elle à 7 heures du matin, après avoir entendu l'effroyable révélation faite par Madame d'Estol et conduit hors de son boudoir celle-ci et Valnay, Nelly Rose avait longtemps sangloté sur son divan. Puis, brisée, physiquement et moralement, elle s'était endormie. Sommeil agité, précaire, coupé de cauchemars où elle s'éveillait en criant. À diverses reprises, elle avait entendu frapper à sa porte. Elle n'avait pas répondu. Elle ne voulait voir personne. Elle ne voulait pas déjeuner. Elle voulait être seule. Seule avec ses pensées qui se pressaient dans son cerveau tumultueux. Peu après, elle s'apaisa, essaya de réfléchir, de discipliner ses pensées, d'envisager avec lucidité la situation. Tous les événements de la nuit lui apparaissaient avec une netteté parfaite. Il n'y avait aucune lacune dans ses souvenirs. Elle se rappelait tout. Au commencement de l'après-midi, elle se leva de son divan. Elle ne pouvait plus rester là, dans ce boudoir où, la veille, à minuit, elle avait reçu cet homme. Elle ne pouvait plus rester dans l'inaction. Elle avait besoin de sortir, de retrouver la vie extérieure. Elle avait surtout l'ardent désir d'apprendre peut-être quelque chose. Les journaux du soir allaient bientôt paraître. Sans doute parleraient-ils du crime. Elle quitta, presque avec répulsion, sa robe de la veille, cette robe blanche que toute la nuit à Enghien, ici puis là-bas dans la pension russe, durant tant d'heures aux émotions diverses, elle avait portée. Elle revêtit un tailleur strict et sombre, et un peu après 3 heures, par sa sortie particulière, elle redescendit. L'après-midi était d'une douceur légère, mais elle n'en put goûter le charme, trop absorbée par ses préoccupations opprimantes. Elle marchait vite le long de l'avenue vers l'Alma. Sur la place, elle vit dans un kiosque affiché un journal du soir qui venait d'arriver. Sur 2 colonnes, en grosses lettres, ce titre « Monsieur Baratov, qui fit don de 5 millions à la maison des laboratoires, a été assassiné. » Frémissante, elle acheta le journal, parcourut l'article et tressaillit profondément en lisant ces lignes. « On a arrêté un ami de Monsieur Baratov, un jeune homme nommé Gérard. » Il a été amené au nouveau palace en présence de M. Lisney, juge d'instruction. Les charges qui pèsent sur lui sont accablantes. Il est prouvé... » Elle lut jusqu'au bout le résumé, succinct d'ailleurs, vu l'heure d'impression du journal, de l'enquête faite par M. Lisney. Un moment, elle resta immobile, réfléchissant. Puis elle eut un geste de décision, arrêta un taxi et, sans trop savoir ce qu'elle faisait, mais dans un besoin irrésistible d'action et de lutte, elle donna l'adresse du nouveau palace. Là, ayant interrogé,
elle apprit que l'enquête se poursuivait dans l'appartement du Russe. Sur sa demande, on la conduisit près d'un agent de police qui était de garde. Elle écrivit quelques mots sur un bout de papier. On vint la chercher au bout d'un instant. Qu'allait-elle dire? À quel mobile obéissait-elle? Quelle force implacable la contraignait à se jeter elle-même au cours de la bataille? Elle n'en savait rien. Dans le salon, théâtre du crime, où se trouvaient le juge d'instruction, l'inspecteur Nanta et Gérard, Nelly Rose entra, toute défaillante, mais résolue et en apparence calme. Gérard était debout devant elle, pâle et secoué par une violente émotion.
« Non, non !» cria-t-il d'une voix agitée. « Monsieur le juge, il n'y a aucune raison pour que mademoiselle soit ici. Aucune raison pour qu'elle dépose. Je proteste d'avance contre ces déclarations.
« Veuillez garder le silence et demeurer tranquille, » lui dit le juge durement. « Et Nelly Rose, voulez-vous prendre la peine de vous asseoir, mademoiselle ?»
Mais Gérard ne cédait pas. « Je proteste, monsieur le juge d'instruction. Il y a là, de la part de la justice, une manœuvre contre laquelle je m'insurge de toutes mes forces.
« Mais quelle manœuvre ? Mademoiselle est venue spontanément. Voici le texte de sa demande. »
Nelly Rose d'Estol, à qui fut adressé le chèque de 5 millions signé Ivan Baratov. Point. Communication urgente.
Gérard insista. « Mais cela n'a rien à voir avec l'affaire pour laquelle je suis convoquée. Je ne connais pas, mademoiselle. »
Le juge se tourna vers la jeune fille. « Vous ne connaissez pas monsieur, mademoiselle ?»
Elle répliqua nettement « Si, monsieur le juge d'instruction. »
« Et il vous connaît ?»«
Il me connaît. »
« Vous voyez donc, monsieur, que vos affirmations sont une fois de plus démenties par les faits. »
Et il répéta « Asseyez-vous, mademoiselle. Dites-moi le but de votre démarche. Quelle communication voulez-vous nous faire ?»
Dès lors, Gérard n'essaya plus de lutter. Les bras croisés, avide d'entendre ce qu'allait dire la jeune fille, et bouleversé d'avance par ses paroles, il écouta. Nelly Rose était pâle. La honte et l'émotion la serraient à la gorge. Cependant, la même décision l'animait. Et sans regarder le juge, elle prononça, en appuyant sur chaque syllabe, cette phrase terrible où tenait tout le mystère de la nuit passée.
« Monsieur le juge d'instruction, de minuit à 7 heures, je n'ai pas quitté monsieur. »
Sans lever les yeux, elle désignait Gérard. Il y eut un silence, de stupeur pour le juge et pour le policier, d'intense émotion pour Gérard.
« Veuillez préciser, mademoiselle, » dit monsieur Lisney d'une voix grave, « comment avez-vous connu ce monsieur ?»«
Dois-je résumer, monsieur le juge ?»«
Non, mademoiselle, expliquez-vous en détail. »
Nelly Rose commença.
« Voici, monsieur le juge, il y a quelques semaines, à une séance du comité de la maison des laboratoires, dont je suis secrétaire, j'ai proposé une loterie, disant que chacun devrait donner quelque chose. On m'a demandé ce que je donnerais, moi. Dans un accès d'enthousiasme, un peu ridicule peut-être, en tout cas irraisonné, j'ai dit « tout ce qu'on voudra », sans penser au sens que pouvaient présenter ces paroles. Or, une de mes camarades, une Polonaise, prenant la chose au sérieux, pour célébrer ce qu'elle appelait mon beau geste, a envoyé un article à la revue France-Pologne qu'il a publié avec 3 de mes photographies et un chiffre, 5 millions. J'avais l'air de m'offrir pour 5 millions. Je l'ai compris après. Un Russe, M. Ivan Baratov, m'a écrit de Pologne. Il me demandait de le recevoir dans mon boudoir de minuit à 7 heures, seul, et m'envoyait un chèque de 5 millions que je devais déchirer si je n'acceptais pas. Par suite d'un malentendu entre le président de notre société et moi, le chèque a été touché. M'engageant. Hier, apprenant que M. Baratov était arrivé,
et désirant avoir avec lui une explication loyale, je lui ai téléphoné ici vers 4 heures pour lui dire que je viendrai le lendemain au matin, donc ce matin. Un de ses amis m'a répondu qu'il n'était pas arrivé. Le soir, à 9 heures, j'ai reçu une lettre de M. Baratov m'enjoignant d'avoir à tenir ma promesse et de le recevoir à minuit dans mon boudoir. J'ai horreur de la déloyauté. Je craignais d'avoir l'air d'une aventurière ayant soutiré 5 millions. J'étais engagée et me suis décidée, malgré les efforts de mes proches, à tenir mon engagement. Tout le monde avait écouté dans le plus grand silence la jeune fille. Après une pause, elle reprit. Hier aussi, une autre personne est intervenue dans ma vie. Monsieur, elle désigna de nouveau Gérard. Devant la maison des laboratoires, il m'a attendu, sans que j'aie, moi, le moindre soupçon de son existence. Il est intervenu dans un incident avec un chauffeur de taxi. Il m'a suivi jusqu'au garage, où j'ai remisé ma voiture, et l'après-midi, à une matinée que donnait ma mère, il s'est permis de se présenter et de m'inviter à danser. Le soir, j'ai attendu, puisque j'avais promis à M. Baratov de le recevoir à minuit. On a sonné, j'ai ouvert, et j'ai eu la stupeur de me trouver en présence de monsieur. Il m'a dit qu'il s'appelait Ivan Baratov, m'indiquant d'ailleurs que ce n'était qu'un nom de guerre et qu'il était français. Pas une seconde je n'ai pensé à une supercherie. Ayant vu mes photographies, il était venu à notre réception de l'après-midi pour me rencontrer et n'être pas pour moi tout à fait un inconnu. Il a été d'une extraordinaire adresse. Comme sa présence chez moi à 7 heures m'était un supplice, il m'a offert, ce que j'ai pris alors pour de la générosité, de sortir avec lui. J'ai accepté avec un sentiment de délivrance. Il m'a emmené, une voiture l'attendait, à un bal russe à Auteuil. « C'était vous, la jeune femme en rouge et blanc qui l'accompagnait ?» dit le juge. « Oui. » Là, il m'a fait boire du champagne, sachant que cela me ferait tourner la tête. Il m'a fait danser, il m'a étourdi de paroles habiles, me menant peu à peu où il voulait. Quand il a vu que je n'avais plus ma volonté, qu'une autre moi-même dirigeait mes actes, que j'étais sans défense, profitant d'une rixe au cours de laquelle il m'a protégée contre des gens ivres, il m'a enlevée dans ses bras et m'a emportée dans sa chambre. Nelly Rose s'arrêta encore. Gérard, les yeux baissés, essayait de dissimuler les impressions qu'il éprouvait à cette évocation de leur nuit. Nanta restait impassible. Le juge d'instruction, le sourcil froncé, prit la parole. « Et cette comédie a été jouée par un homme qui venait, tout probablement, d'en assassiner un autre. » Nelly Rose tressaillit, toute remuée par le mot redoutable. « Assassiner ?» dit-elle à voix basse. « Oui, mademoiselle, » insista le juge d'instruction. « Tout semble prouver... » « Je sais, » reprit Nelly Rose. « J'ai lu les journaux. Et c'est pourquoi... » « Et c'est pourquoi ?» Elle réfléchit quelques secondes et s'expliqua. « Monsieur le juge d'instruction, je suis venue ici, je puis le dire, au hasard, sur un mouvement que je n'ai pu réprimer. Maintenant, je me rends compte. Oui, je sais la raison profonde pour laquelle je suis venue. Je suis venue pour protester et pour dire que cet homme n'a pas assassiné Monsieur Baratov. » Il y eut encore de la stupeur, et cette fois, Nanta lui-même ne cacha pas son étonnement. « Je ne comprends pas, » dit M. Lisney. « Il n'a pas tué Baratov, j'en ai la conviction, » répéta Nelly Rose avec certitude. « Si endurci, si déterminé soit-il, un homme qui vient d'en tuer un autre, un homme qui sait qu'on va découvrir au matin le cadavre, un homme qui sait qu'on pourra établir ses relations avec la victime, ne passe pas les heures qui suivent le crime à conduire une intrigue d'amour. Et le voulut-il ne peut avoir assez de sang-froid pour jouer son jeu sans défaillance. Et toute la nuit, avec moi, cet homme a été d'un sang-froid parfait. C'est à peine si, une ou deux fois, j'ai cru le voir distrait. Peut-être pensait-il à sa rixe avec Baratov. Peut-être pensait-il qu'il serait à mes yeux démasqué le lendemain. Mais c'était de fugitifs instants qui s'effaçaient sans laisser de traces. Vous ne pouvez savoir à quel point il est resté maître de lui. Toute la nuit, sans défaillance, sa conduite a été auprès de moi celle d'un séducteur qui veut réussir par tous les moyens. Et c'est ce séducteur que vous venez défendre et que vous cherchez à excuser, dit le juge. Nelly Rose se redressa dans un geste de protestation. Mais je ne l'excuse pas de la conduite qu'il a tenue à mon égard. Pour me leurrer, il a pris la place d'un autre. Pour me mettre en son pouvoir, il a joué de mes émotions qu'il suscitait. Par la ruse, en faisant naître en moi la peur, puis en la calmant, puis en me donnant confiance, puis en usant de l'influence qu'il prenait peu à peu sur mon esprit. Il m'a, je vous le répète, fait sortir de moi-même. Je suis devenue ce qu'il voulait que je devienne. Encore une fois, monsieur le juge, un assassin, un coupable, n'a pas cette lucidité incroyable, cette maîtrise de soi que nul trouble n'affaiblit. Un coupable pense à autre chose qu'à séduire une jeune fille. Un coupable consacre à la fuite ou à des précautions de protection les heures qui suivent le crime. Un coupable ne serait pas venu me dire « Je suis Baratov » après l'avoir tué. Un coupable ne m'aurait pas conduite à la pension russe, poursuivant son but, son seul but, qui était d'abuser de moi. Non, maintenant que je sais qu'un crime a été commis, je sais que, quelles que soient les charges, ce n'est pas cet homme qui l'a commis. Pourtant, il y a eu discussion violente entre lui et Baratov, observa le juge. Il y a eu rixe. Monsieur le juge, dit Nelly Rose après un instant. « Je pense que cette discussion, cette rixe, me concernait. »« Qui vous fait croire cela ?»« Rien de formel, c'est une impression. Je pense qu'il voulait empêcher Baratov de me rejoindre. »«
Est-ce vrai ?» demanda le juge à Gérard.
« Oui, » répondit Gérard sombre.
Cela n'empêcherait pas d'ailleurs la possibilité du meurtre, continua M. Liseret.
Non, protesta Nelly Rose, non, il n'a pas tué, il ne serait pas venu me rejoindre ainsi, réfléchissez. Et vous dites, mademoiselle, qu'il est arrivé chez vous à minuit, pas plus tard.
Oh, monsieur le juge, je suis certaine de l'heure, je l'attendais avec tant d'anxiété.
Nul ne pouvait douter de la véracité des paroles de Nelly Rose. Monsieur Lisney glissa un regard vers Nanta. Mais dans son coin, l'inspecteur demeurait immobile, écoutant dans un silence qu'on devinait hostile.
« Et à quelle heure vous êtes-vous séparé de lui ?» demanda le juge à la jeune fille.
« Je l'ai quitté à 6h30 du matin, » répondit-elle. « Mais... »
« Mais... »
Nelly Rose était pâle, oppressée, presque défaillante. Elle demeurait indécise. Cependant, elle finit par dire « Monsieur le juge d'instruction, je n'ai plus rien à révéler. Je vous ai raconté dans ces détails les circonstances qui m'ont mêlée à cette affaire. Je vous ai dit mon opinion exacte sur monsieur. Je n'ai rien à ajouter. »
Mais monsieur Lisney ne lâcha pas prise. Il sentait bien la détresse croissante de la jeune fille, et il s'obstina, impitoyable.
« Il faut parler, mademoiselle. 2 heures, 3 heures
se sont écoulées après votre sortie du bal. Des heures où cet homme est resté près de vous, entre les 4 murs d'une chambre. Et nous devons savoir... »
Elle se mit à pleurer doucement. Elle avait l'air de supplier. « Je vous en prie. » Ne me contraignez pas, c'est une torture que vous m'infligez. En avez-vous le droit ?
Gérard murmura
« Ne dites pas un mot, mademoiselle. »
Elle releva la tête et s'adressant à Monsieur Lisney,
« Ce que je vous ai confié ne suffit pas à fixer votre opinion ?»«
Ce sont des impressions, des preuves toutes morales.
Mais ces preuves morales elles-mêmes sont contredites par la façon même avec laquelle il a agi envers vous. »
« Oui, en effet, dit-elle, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma confession pour que vous puissiez le juger selon ce qu'il est et selon ce qu'il a fait. Ne m'en veuillez pas si j'hésite. Il y a des choses pénibles. »
Elle essuya ses yeux. Son visage prit une expression d'énergie tranquille. Elle se domina dans un effort suprême et prononça.
« Je dirai donc tout, monsieur le juge, et devant lui-même. Eh bien, hier, tout l'après-midi, j'avais subi l'influence obsédante de cet homme. Oui, dès la première minute, il m'a inquiété et troublé. C'est inexplicable de ma part. J'étais si paisible et si maîtresse de moi. Mais c'est ainsi. Et lorsque la nuit est arrivée, lorsque nous sommes venus à cette fête russe, j'étais déjà conquise. Il m'a emportée dans sa chambre. J'étais sans défense, à sa merci. Il pouvait faire de moi ce qu'il voulait, avec mon consentement. Oui, j'ai honte de l'avouer. J'étais consentante, et il le savait. Il savait que je n'aurais pas repoussé ses baisers. Je le lui ai presque dit, tout en le suppliant de me respecter. C'est cela qu'il faut bien comprendre, monsieur le juge d'instruction, puisque vous voulez connaître toute la vérité sur lui. C'est cela, c'est un abandon total. Or, il ne m'a pas touché, monsieur le juge d'instruction. La situation qu'il avait créée, il n'en a pas profité. Il n'y a pas eu lutte, je n'ai pas eu à me défendre. J'étais sur le divan, sous ses yeux qui m'enlevaient toute force, j'étais à lui s'il l'avait voulu. Je n'étais pas éveillée, mais je ne dormais pas non plus. J'étais incapable de mouvement, mais j'étais consciente. Il m'a regardée longuement. Entre mes cils baissés, j'ai vu changer, s'attendrir l'expression de ses yeux. J'ai vu sur son visage une expression de pitié et de remords. Il avait un genou sur le bord du divan. Il s'est relevé et il s'est éloigné, monsieur le juge, m'épargnant, moi qui ne désirais pas alors être épargnée. Et sans plus me regarder, il s'est assis devant une table, la tête dans ses mains. Et là, il s'est, après quelques moments, combien de temps je ne sais au juste, endormi. Je me suis alors moi aussi assoupi. Une heure après environ, je me suis réveillée. Il dormait encore, la tête sur son bras appuyée à la table. Et c'est une des choses qui m'ont le plus émue, et qui m'émeuvent encore, ce sommeil, le sien et le mien. Nous avons été dans cette chambre comme des enfants, moi malgré ce que j'avais fait, lui malgré sa conduite. J'ai quitté sans bruit le divan, j'ai pris mon manteau, et doucement, sans l'éveiller, je suis partie. Personne ne m'a vue à la pension, où tout dormait. Voilà la vérité, monsieur le juge. Vous en tirerez les conclusions qui vous sembleront justes. Pour moi, si je ne lui pardonne pas ses habiletés et sa conduite, je ne peux pas oublier qu'il m'a respecté. Je ne peux pas oublier cela. Je ne l'oublierai jamais. » La voix de Nelly Rose sombra dans un sanglot qu'elle étouffa. Gérard, sur sa chaise, gardait son immobilité de statue. Les yeux baissés, le visage rigide, on sentait que toutes ses forces étaient tendues pour ne pas laisser transparaître son émotion. Le juge, lui, dissimulait mal la sienne.
« C'est tout de même chic, ce qu'elle fait là, la petite !» murmura une voix.
Ce ne pouvait être que la voix de Nanta, mais Nanta, dans un coin immobile, ne regardait personne. « Mademoiselle, c'est tout ce que vous avez à dire ?» demanda le juge d'instruction. « C'est tout, » fit avec calme Nelly Rose, qui s'était reprise.
J'ai dit ma conviction, et j'ai dit toute ma faiblesse, comme c'était mon devoir, pour que vous puissiez comprendre et juger. »
Monsieur Lissenet tourna les yeux vers Gérard. « Vous n'avez rien à répondre à mademoiselle ?»«
Rien que ceci. » Gérard lui aussi avait repris quelque calme. « Je jure sur l'honneur que, quand mon innocence, grâce à elle, aura été reconnue, quand je serai libre, je ne chercherai jamais à la revoir. »
Il eut un bref coup d'œil vers Nelly Rose, mais elle ne le regardait pas et resta impassible.
« D'autre part, continua Gérard, je vous demande, monsieur le juge, si c'est possible de ne pas révéler tout de suite, du moins, le nom de mademoiselle, de ne pas mentionner son intervention. Elle ne doit pas être éclaboussée par aucun scandale. Et comme le vrai coupable sera certainement bientôt découvert, il sera possible de passer sous silence tout ce qui touche mademoiselle d'Estol.
Mademoiselle, vous pouvez vous retirer, dit monsieur Lissenet. Mais Gérard se dressa.
Un mot encore avant le départ de mademoiselle d'Estol, monsieur le juge. J'oubliais, et quelque chose de grave. Voici. J'ai été, lors de mon dernier voyage en Russie, il y a quelques semaines, chercher des papiers qui appartiennent à madame d'Estol et à mademoiselle.
Des papiers? Quels papiers?
Des valeurs, des titres de propriété de mines en Roumanie, un reçu. Le tout représentant une somme importante.
Quelle somme?
Je ne sais trop. 10, 20 millions, peut-être davantage.
En effet, dit monsieur Lissenet, la somme est considérable.
Mais Nanta s'était dressée.
Pardon, monsieur le juge.
Et à Gérard.
Dans quoi sont-ils, ces papiers?
Dans une pochette.
Nous y voilà, à la pochette. Je le savais bien. Et vous n'avez pas voulu m'en souffler mot tout à l'heure. Quel entêté!
Je ne voulais parler de ces papiers qu'à mademoiselle d'Estol, en les lui remettant. Ou plutôt, les ayant remis à Baratov, je m'étais aperçu qu'il voulait se les approprier. C'est à ce sujet qu'il y a eu cette nuit, entre lui et moi, discussion, puis rixe. Au cours de notre rixe, je les lui ai repris.
« C'était le seul motif de votre querelle ?» demanda le juge.
Gérard hésita. Il y avait un autre motif.
Celui d'empêcher Baratov de venir chez mademoiselle.
Oui.
Et vous aviez l'intention de vous substituer à lui?
Pas à ce moment-là. J'ai été indécis tout d'abord. Ayant les titres dans ma poche, je me demandais par quel moyen je pourrais les remettre à mesdames d'Estol. C'est alors seulement que, brusquement, j'ai eu l'idée de me substituer à Baratov, et d'aller, comme si j'étais lui, voir mademoiselle d'Estol, qui, je le savais, devait le recevoir. Il me l'avait dit.
« Pourquoi n'avez-vous pas remis ces papiers la nuit à mademoiselle d'Estol ?»«
Déjà, puisque je jouais le rôle de Baratov, je m'étais imposé à elle, en envoyant 5 millions au laboratoire, sous la condition que vous savez. Alors, par fatuité, si vous voulez... Aussi par respect pour elle-même, il me déplaisait d'avoir l'air de proposer ou d'imposer, même implicitement, un autre marché, plus direct encore et plus choquant, et de me prévaloir de cet argent que je lui rapportais et qui était à elle.
Scrupule tardif, vous m'avouerez, et peu explicable.
Il en est cependant ainsi, monsieur le juge d'instruction. Tout de suite, et malgré la façon dont j'agissais, j'ai senti pour elle quelque chose de nouveau, une sorte de déférence contraire à ma nature. C'est pour cela qu'après l'avoir amenée dans ma chambre, j'ai eu honte d'abuser de sa confiance. Si elle n'avait pas dormi, peut-être. Si elle n'avait pas été dans cet état d'inconscience et qu'elle eût pu répondre volontairement à mes baisers, peut-être aurais-je cédé à mon désir. Mais, abandonnée comme elle l'était, ne sachant pas ce qu'elle faisait, elle est devenue pour moi inaccessible, presque sacrée.
Bref, ces papiers.
Je les ai conservés sur moi toute la nuit. Ce matin, comme j'allais en province, je les ai remis à Yegor, le patron de la pension russe, en un pli cacheté qu'il a mis dans son coffre. Au bout de 8 jours, et si je ne lui avais pas donné le contre-ordre, il devait les porter à une adresse que je lui laissais par écrit sous enveloppe. Cette enveloppe, vous l'ouvrirez, monsieur le juge d'instruction, et vous y trouverez l'adresse de mademoiselle d'Estol.
Gérard tira de sa poche son portefeuille, y prit une carte, et avec la plume du juge d'instruction, la signa.
« Voici ma carte et ma signature, » dit-il. « Yegor vous remettra les papiers. »
Le juge d'instruction prit la carte. Il regardait Nelly Rose. Celle-ci, toujours impassible, semblait étrangère à l'événement.
« Vous pouvez vous retirer, mademoiselle, »
dit pour la seconde fois M. Lisney. La jeune fille lui fit une inclinaison de tête et, sans une parole, s'en alla. Pas une fois, son regard n'avait rencontré celui de Gérard. Dehors, sur l'avenue des Champs-Élysées, Nelly Rose marcha quelques instants vers l'Arc de Triomphe. Elle était infiniment lasse. Elle avançait avec une lenteur croissante. Qu'allait-elle faire et dire chez elle? Et soudain, cette idée de rentrer, de parler à sa mère, de lui donner, ainsi qu'à Valnay, des explications, et de subir un fastidieux interrogatoire, lui parut intolérable. Sa décision fut immédiate. Elle entra dans un bureau de poste et envoya ce pneumatique à madame d'Estol.
« Maman chérie, pardonne-moi toute la peine que je t'ai faite et ne m'en veuille pas si j'éprouve le besoin de rester seule quelques jours. Ce sera pour toi et pour moi un repos qui nous est indispensable à l'une et à l'autre. Dès mon retour, lundi prochain après-midi, je te dirai toute la vérité et j'espère bien pouvoir t'apprendre que nous sommes sur le point de devenir riches. De tout mon cœur, maman chérie. »
Nelly Rose prit ensuite un taxi, acheta dans un grand magasin un sac et les objets de toilette indispensables et se fit conduire sur la rive gauche, le long du jardin des plantes, où elle connaissait une petite pension de famille qu'une de ses amies avait habitée. Quelle joie de pouvoir enfin être tranquille et de se promener chaque jour, loin des yeux et loin de tout, dans le vieux jardin solitaire.